On me demande souvent, c'est quoi l'entrepreneuriat ? Bah pour ça, quoi de mieux que de demander l'avis à d'autres entrepreneurs ? Pour cette deuxième saison du podcast « Mes premières fois dans l'entrepreneuriat », vous allez découvrir sans tabou et avec authenticité les vraies coulisses des entrepreneurs qui se battent pour faire exister leur entreprise. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti ! Et avant de démarrer, les amis, si vous aimez ce podcast, je vous invite à mettre un petit 5 étoiles avec un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast pour donner de la force à ce projet qui me tient vraiment à cœur. Merci d'avance, c'est parti pour l'épisode. Salut tout le monde, très heureux aujourd'hui d'accueillir Magali Auger, qui est coach professionnel autour de la transition professionnelle. Tu vas nous en dire un petit peu plus tout à l'heure, Magali. RH aussi, et DG, tu vas nous parler de ton expérience riche dans ce domaine-là, avant notamment d'être dans l'entrepreneuriat. Tu t'es lancé il y a peu, tu vas nous parler un petit peu justement de cette phase de lancement, pourquoi justement tu es parti de ce poste de DG pour devenir notamment entrepreneur. Dis-nous tout, je te laisse te présenter et c'est un plaisir aujourd'hui de t'accueillir.
Merci beaucoup Alexandre, c'est un vrai plaisir de venir à ton micro, puisque d'habitude c'est moi qui anime les podcasts, donc ça fait du bien d'être de l'autre côté. En quelques mots, moi j'ai 20 ans d'expérience professionnelle comme DRH et DG, secteur public essentiellement, en collectivité territoriale et en établissement public administratif. Et je suis coach professionnel depuis en réalité 2009, mais je faisais ça à côté de mon activité professionnelle comme bénévole dans un certain nombre d'associations sociales et professionnelles. Et j'ai décidé effectivement de m'installer à mon compte il y a tout juste 4 mois, pratiquement jour pour jour. Donc, c'est une nouvelle aventure en tant que coach professionnel. Et je m'occupe à la fois du volet transition professionnelle. Donc, pour l'essentiel, ce sont des personnes qui sont après un burn-out, un licenciement, une rupture conventionnelle. Il y a régulièrement des arrêts maladie qui sont passés par là aussi. Et donc, je les accompagne pour clarifier leur projet professionnel et trouver un nouvel emploi. Et puis après, l'autre volet, ce sont je propose aussi du coaching professionnel et managérial. Donc, ce sont des personnes qui sont, par exemple, en poste, qui souhaitent progresser dans leur carrière professionnelle ou dans leur pratique managériale pour réussir à mieux fédérer leurs équipes autour d'elle.
Une super mission. Merci à toi pour ces précisions. Du coup, on va, comme tu le sais, le podcast regroupe un petit peu dans l'ordre chronologique les premières fois de chaque invité pour parler notamment de ton parcours. On va parler de quelque chose qui n'est pas forcément très sympa, entre guillemets, que tu as vécu, parce que je ne sais pas si tu avais choisi, en tout cas volontairement, cette voie d'être coach professionnel aujourd'hui. Tu vas nous parler du coup de ton premier chômage, nous expliquer un petit peu justement pourquoi tu t'es retrouvé au chômage alors que tu étais DG d'une structure.
Oui, mon premier jour de chômage, c'est tout simplement au mois de juin 2023, où mon employeur décide de supprimer mon poste suite à une réforme nationale, fusion régionale. Sur la Nouvelle-Aquitaine, il y a 12 départements plus le niveau régional. Nous étions 13 DG et il en fallait plus qu'un, puisque maintenant, c'est une seule entité avec une seule personnalité morale. Donc, un seul DG. Donc, mon poste de DG a été supprimé. J'ai donc été licenciée. Donc, c'est vrai que ça fait bizarre au bout de 20 ans, surtout que dans le secteur public, souvent, on dit que il y a une sécurité d'emploi, et ben finalement pas forcément, et donc j'ai décidé même d'en faire un poste. Je me suis dit il y a pas de raison que j'ai honte de ça déjà, et puis j'avais envie de dire aussi que ça existe à tout le monde, enfin ça arrive à tout le monde, pardon, ça existe pour tout le monde. Et donc, j'en ai fait un poste et c'est devenu un poste complètement viral sur LinkedIn, puisque j'ai eu plus de 25 000 likes, 1500 commentaires. J'ai mis un mois à répondre à toutes les personnes qui m'ont écrit soit en commentaire, soit en message privé. Donc, j'en profite à travers ton podcast pour les remercier, pour aussi toutes les propositions que j'ai pu recevoir, mais aussi toutes les marques de confiance des personnes qui m'ont partager la difficile expérience qu'ils vivaient aussi de leur côté.
C'est intéressant ce que tu racontes. Bon, je pense que si le poste a marché, c'est parce que ça a touché les gens. Après, personne connaît la magie justement de l'algorithme et pourquoi ça a fait que. Mais ton sujet, en tout cas, parle à beaucoup et on n'imagine pas en fait une directrice générale se faire licencier comme ça. Tu l'as dit aussi, tu l'as évoqué, encore plus, enfin encore moins en tout cas dans le secteur public. Donc, je trouve ça bien d'en parler. Évidemment, ça a été, j'imagine, très, très difficile pour toi. Limite, un choc émotionnel. Ça fait 20 ans que tu es là-bas. Et bon, tu as peut-être senti un petit peu les choses venir à ce sujet-là. Comment tu l'as vécu? Comment tu as réussi à te reconstruire? Parce que j'imagine qu'il a fallu un peu de temps pour se remotiver, reprendre de l'énergie et attaquer et aller de l'avant surtout.
Alors, d'une part, je n'ai pas fait 20 ans chez le même employeur. J'avais déjà eu plusieurs employeurs précédemment. Donc, quelque part, j'avais construit une expérience, un parcours qui était au-delà de cet employeur-là, même si je suis restée sur ce poste de 2017 à 2023. Donc, quelque part, ça permet aussi, quand on se pose la question de quelle est notre valeur professionnelle, ça permet aussi de se dire que si on n'a plus d'intérêt pour notre structure, ou plutôt que notre structure n'a plus d'intérêt pour notre profil, on se remet pas forcément en cause dans la globalité, j'allais dire, dans le sens où on sait qu'on a une valeur sur le marché du travail, qu'on est capable de faire un certain nombre de choses, de réaliser des projets importants. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, j'ai eu le temps de le voir venir parce que ça faisait suite à une réforme nationale voulue, qui a été inscrite dans la loi Pacte de 2019. Donc, en janvier 2021, on était régionalisé. Donc, déjà, ma fonction avait changé. Et puis, très clairement, mon poste a, au fur et à mesure, été vidé de son contenu. Là où avant j'avais un budget par exemple de 13 millions d'euros avec 220 collaborateurs, à la fin j'avais une délégation de signature de 3 000 euros et encore en fonctionnement, zéro en investissement, alors que j'avais un projet de 23 millions d'euros de rénovation du 3e CFA Nouvelle-Aquitaine. Donc en gros, je devenais un peu passe-plat, c'est-à-dire que je mettais en musique des décisions qui étaient prises à un niveau régional, sur un territoire, mais j'avais plus la même autonomie, j'avais plus le même, aussi le même intérêt par rapport au contenu du poste. Donc j'allais dire, tout ça fait que j'ai eu le temps de me faire à l'idée, et donc j'ai eu le temps aussi de prévenir mes équipes et d'organiser les choses pour dire bon voilà, à un moment donné ça va se faire progressivement, mais mon poste va probablement finir par être supprimé, et c'est ce qui s'est passé. Je n'ai pas été reclassée puisque dans une structure il faut un DG, il n'en faut pas plusieurs.
Ok, merci de nous parler de ça. En fait, tu l'as vu venir un petit peu parce que tu avais un petit peu de pouvoir entre guillemets au départ, et on te l'a enlevé au fil du temps avec cette restriction de budget notamment dont tu parles. Donc, tu as eu le temps un petit peu, alors je ne vais pas dire de le digérer, mais de sentir les choses. Et c'est pour ça qu'après, j'imagine, tu as eu cette réflexion pour savoir ce que tu allais vraiment faire. Et tu as fait beaucoup de choses après, puisque maintenant, ça nous amène à une deuxième première fois, celle d'un podcast. Bon, là, on est dans le podcast, mais première fois dans l'entrepreneuriat. Mais toi aussi, tu as un podcast. Tu as notamment un sujet particulier que tu évoques dedans. Je te laisse nous en dire un petit peu plus.
Donc, en fait, au moment où je vois le vent venir et je me dis, voilà, mon poste va probablement être supprimé et je risque d'être licenciée suite à la suppression de ce poste, j'active mon réseau et surtout j'échange avec d'autres personnes pour croiser nos regards sur le monde du travail, et ça m'intéresse de savoir ce que vivent d'autres personnes. Donc c'est un peu aussi comme ça que moi j'ai réussi à rebondir, c'est que je me suis dit mais en fait je suis pas toute seule à vivre des choses comme ça, et le fait aussi de se décentrer permet de relativiser et aussi de se nourrir d'autres réflexions, d'autres personnes qui sont généreuses de cœur, j'allais dire. Et donc c'est comme ça en fait que je lance ce podcast, c'est que je me dis mais en fait ce que me raconte, ce que m'explique et tous les conseils qui me sont donnés, ça doit pouvoir être utile à d'autres. Moi, j'ai la chance d'avoir constitué ce réseau en 20 ans, hein, puisque je pars de zéro. À l'origine, je viens d'un milieu ouvrier, j'avais zéro contact ni dans les directions générales, ni dans l'entrepreneuriat. Et je me dis, ce réseau, je l'ai constitué en 20 ans. j'aurais bien aimé l'avoir et entendre ces conseils-là il y a 20 ans. Et c'est comme ça que je crée le podcast Valeurs Agitées, puisque l'idée, c'est de croiser nos regards sur le monde du travail, mais aussi de partager des trucs et des astuces, des conseils concrets pour gagner en efficacité et sérénité au travail. Donc, le podcast Valeurs Agitées, c'est vraiment d'être orienté autour du bien-être au travail, des dirigeants, des DRH et des managers, puisque j'ai occupé ces trois fonctions et je vois que d'autres personnes qui occupent ces fonctions sont aussi en souffrance au travail.
C'est un vrai sujet, c'est des vrais sujets que tu traites justement dans le podcast. Valeurs Agitées, j'adore le nom, ça, on sait de quoi ça parle tout de suite en tout cas, surtout sur notamment ces domaines bien particuliers dont on a besoin, puis ton travail, on va dire, aujourd'hui, coach professionnel, c'est vraiment complémentaire avec ce que tu fais avec ce podcast-là. Donc, c'est ça qui est plutôt bien pour entendre des histoires, partager, parce que tu apprends aussi certaines choses, mais tu délivres aussi et tu permets à certains, notamment, de s'exprimer sur des sujets qui sont assez...
Complètement. Et c'est vrai que ce qui m'intéresse à travers le podcast, c'est d'aller sur des sujets de fond. C'est pour ça que je suis sur un format long. Hein. Je suis sur un format où les interviews durent entre, on va dire... 1 heure et 2 heures, selon les invités. Et donc, ça nous permet d'aller sur le fond des sujets. Et ça permet aussi de dépasser quelque part les éléments de langage qui sont tout préparés. Et on le sait, quand on est manager des RH et DG, on est un peu phagocyté par des éléments de langage qui nous sont transmis, par une posture qu'on doit tenir. Et évidemment, pendant 1 heure ou 2 heures, eh ben, à un moment donné, ce que je vais chercher, c'est vraiment qui est la personne aussi derrière la fonction. Qu'est-ce qui l'anime? Qu'est-ce qui lui donne envie de porter ces responsabilités-là? Qu'est-ce qui lui donne envie d'aider les autres? Et comment aussi il vit cette fonction? Comment il prend soin de lui? Comment il se ressource, etc., etc.
Est-ce que tu penses qu'il y a des personnes qui arrivent un petit peu par hasard? Tu dis justement de t'intéresser à ces gens au travers de leur personne, leur personnalité, leurs émotions, pour savoir si elles arriveraient justement à communiquer avec d'autres, parce que c'est un peu ça le rôle d'un manager aujourd'hui ou d'un DRH. Je ne parle pas forcément de la fonction DG. Quand je dis arriver par hasard, c'est voilà, elles sont là et puis elles prennent un poste un petit peu par leurs dépens. Le fait que tu rentres avec eux en détail, en profondeur, est-ce que ça permet justement d'ouvrir un petit peu la voie des possibles pour savoir si ce chemin-là est fait pour eux?
Alors, ça, c'est un travail que je fais plus dans le cadre du coaching. C'est-à-dire que pour beaucoup de personnes que je rencontre, en fait, ils ont progressé sur des professions, des fonctions qui sont très exigeantes. Souvent, ils l'ont fait parce que ça les nourrissait intellectuellement ou parce que les opportunités se sont présentées ou parce que pour elles, ça pouvait être, entre guillemets, facile, elle dominait un poste, donc elle prenait le poste supérieur, etc. Et finalement, je vois qu'il y a peu d'entre elles qui se sont posées les questions, j'allais dire, un peu fondamentales. Qu'est-ce qui les anime? En quoi ça nourrit leurs besoins premiers d'aller sur ces fonctions-là? Et finalement, je vois aussi beaucoup de personnes qui s'oublient, qui, à force de s'occuper des autres, s'oublient complètement et ne savent même plus mettre de limites, ne savent plus forcément dire non. Et finalement, ont l'impression que le bien-être, et notamment d'ailleurs quand on est DRH ou DG, le bien-être des salariés passe avant le leur. Donc c'est comme ça, et moi j'ai fait la même chose, hein. J'en ai fait un burn-out en 2012 parce que je me disais je ne peux pas rentrer chez moi tant que j'ai pas lu tous mes mails, par exemple, et je me disais si jamais le lendemain matin je me réveille, je regarde mes mails et je découvre qu'il y en a un qui y a une personne qui s'est suicidée alors qu'elle avait fait un message d'alerte, je m'en voudrais le reste de ma vie, quoi. Et donc je me mettais une pression énorme en me disant que j'étais responsable du bien-être au travail des salariés. Alors j'ai travaillé sur mon ego aussi, hein, parce que ça demande un peu d'humilité pour se dire que le bonheur des gens dépend pas forcément de la DRH, mais aussi d'eux. Donc nous, on a quand on est DG, DRH, manager, on a le rôle de, on a un devoir de prendre soin de nos équipes, de créer les conditions nécessaires pour leur épanouissement, pour les motiver, pour les reconnaître, pour arbitrer aussi, parce que les décisions sont nécessaires pour avancer dans une structure. Mais finalement, il y a une partie qui leur appartient. Et quelque part, oui, ça demande un peu de tuer son ego, de rester modeste et de se dire que ce qu'on fera, ce sera déjà très bien. et à chacun aussi de prendre sa part dans le développement de son propre bien-être au travail.
Complètement. Et sujet ô combien important. Merci pour tout ça.
Je t'en prie.
On avance, du coup. Après, tu te lances donc dans le podcast, tu fais des épisodes et puis là, tu envisages sérieusement de lancer ton activité, même si tu l'avais déjà fait en 2019, mais on va dire là de manière plus sérieuse et de manière vraiment officielle. Donc on va parler de ton premier rendez-vous découverte. Comment il est venu? Est-ce que c'est suite à ton réseau, donc comme tu le disais, que tu as activé? C'est une connaissance? C'est un contact? C'est de la prospection à froid? Dis-nous tout.
Alors effectivement, j'étais coach professionnel depuis 2009, mais je faisais ça bénévolement à côté de mon activité de DRH et DG le soir ou le week-end. À l'issue de mon licenciement, donc en juin 2023, je me dis c'est le moment de me lancer pour créer ma propre structure. Donc je crée la société France Coaching. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Et le fait d'avoir aussi augmenté ma visibilité sur LinkedIn, puisque ça fait aujourd'hui un an et demi à peu près que je suis sur, même deux ans maintenant, que je suis régulièrement sur LinkedIn. En fait, en 2023, je passe de 8 000 à bientôt 38 000 abonnés. Et donc, ça m'a donné énormément de visibilité. Et donc, au moment où j'ouvre dans mon agenda des rendez-vous découvertes pour apprendre à connaître mon audience, pour essayer de comprendre en quoi je peux proposer des services qui leur sont utiles. En fait, très vite, je me retrouve là au mois d'août, par exemple, avec j'ai 30 rendez-vous découvertes en l'espace de 3 semaines. Alors que tout le monde me dit mais au mois d'août ça sert à rien, de toute façon il y a personne. Et en fait si, il y a énormément de gens qui me suivent en fait sur LinkedIn et qui finalement ont des besoins. Et moi je démarre comme ça, en fait j'ouvre les rendez-vous découvertes pour comprendre ce que les gens vivent et en quoi je peux leur être utile. Et c'est sur cette base là que j'ai créé mes deux offres de services principales que sont effectivement la transition, l'accompagnement à la transition professionnelle et le coaching, management et développement professionnel. Et d'ailleurs, mon premier rendez-vous découverte, je l'avais pas du tout cadré. J'avais prévu 30 minutes, il a duré une heure et en même temps, c'était très très enrichissant et j'ai fait ça pendant plusieurs mois parce que j'ai créé l'entreprise France Coaching le 2 octobre.
Et tu t'attendais à autant de rendez-vous de découverte justement pour un début d'activité parce que beaucoup un petit peu en parlent sur les réseaux, la difficulté à trouver des clients, c'est pas parce qu'on a 1000, 2000, 10 000 abonnés aujourd'hui qu'on a des clients. Comment tu l'expliques ça, est-ce que cet engouement, est-ce que tu étais sur un sujet donc qui parle, qui intéresse vraiment le marché? C'est quoi pour toi l'explication?
Alors, je pense qu'il y a le fait que sur LinkedIn, moi, j'ai toujours été hyper transparente et très directe. C'est-à-dire que quand j'ai des questions, des doutes, etc., je peux faire un post et demander l'avis des uns des autres. Lorsque je prends du recul sur mon expérience de DRH ou de DG, je le dis avec mes mots comme si je parlais avec un ami ou une amie. Et je n'ai pas peur des haters. D'ailleurs, pour avoir fait 2 posts viraux de plus de 25 000 likes, je n'ai jamais eu de haters. Il y a des gens qui n'étaient pas forcément d'accord avec moi. Et ça, c'est pas un problème en soi. On débat, on discute. Même pour certains, d'ailleurs, je leur ai proposé un rendez-vous découverte, justement, pour débattre sur le fond des points qui nous opposaient. Et je pense que, du coup, les gens peuvent se retrouver. Là encore ce matin, j'avais plusieurs rendez-vous découvertes et des gens qui me disaient « mais en fait, je vous suis depuis 6 mois, depuis 1 an ». Donc quelque part, sans le savoir, je rentre un peu dans leur quotidien puisque bah, ils peuvent être chez eux dans leur canapé à regarder mes posts et ou à écouter mon podcast dans la voiture. Et du coup, je pense que ça crée une proximité qui fait que ça crée de la confiance, en fait. Donc voilà, je suppose que c'est ça.
C'est ça qui est intéressant. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est lié. Les gens, ils aiment bien... ils veulent plus un service pour un service. Ce qu'ils veulent aussi, c'est la personnalité de justement l'humain qu'il y a derrière, qui va les accompagner dans ce service. Si en plus, c'est pour les aider, parce que tu as quand même une mission qui est belle pour celles et ceux qui ont vécu des choses un petit peu délicates dans le monde professionnel, soit manager un peu désabusé, soit au contraire un salarié qui veut avancer, mais qui a eu... des chocs un petit peu compliqués à gérer au quotidien à cause de managers ou de DG un petit peu délicats. Donc c'est une belle mission et ça ne m'étonne pas en tout cas qu'il y ait eu des retours assez rapides et assez bons pour toi à ce niveau-là. Du coup, tu fais ces 30 rendez-vous découvertes. On va passer donc à ton premier rendez-vous client. Donc c'est ta quatrième première fois. Est-ce que ce rendez-vous client, il est venu à l'issue justement de ces rendez-vous découvertes?
Oui, je crée l'entreprise le 2 octobre. Le 3 octobre, je signe mon premier client sur un coaching de longue durée qui dure encore d'ailleurs. Et oui, effectivement, c'est quelqu'un qui me suit en réalité depuis le mois de mai. Donc avant même le poste, le fameux poste où j'annonce mon premier jour de chômage, lui m'a découvert suite à mon premier post viral du décembre 2022 où j'indiquais que je n'avais pas toujours été une bonne DRH et qu'il y a des choses qui font qu'à un moment donné j'ai arrêté ma fonction de DRH pour prendre un poste de DG parce que j'étais plus en phase avec un certain nombre de valeurs éthiques. Et en fait, c'est cette question-là des valeurs éthiques qui font que ce client est venu vers moi parce que lui-même avait des problèmes éthiques. Et c'est aussi pour ça que j'accompagne essentiellement des managers, des DRH et des dirigeants qui sont sur des conflits de valeurs, sur des difficultés de positionnement, sur le fait qu'ils aimeraient être, par exemple, très au service de leurs salariés, mais qu'ils n'ont pas forcément eux-mêmes les moyens de le faire. Et donc, ils sont parfois en fonctionnement en mode dégradé et ils le vivent pas très bien. Et donc, tout ça, c'est des échanges qu'on a. Et je pense que c'est parce que j'ai expliqué aussi mes états d'âme, entre guillemets, en tant que professionnel, où parfois on est obligé de faire des compromis et l'enjeu est de ne pas se compromettre. Voilà. Et donc, je pense que c'est ça que viennent chercher mes clients. En tout cas, celui-ci, le tout premier, c'était le cas. Et aujourd'hui, c'est ce que je ressens dans les différents temps d'échange que j'ai. J'ai effectivement la chance d'avoir des clients qui, en rendez-vous découverte, me disent « Bon, de toute façon, c'est avec vous que je veux travailler et personne d'autre. » Donc ça, c'est facilitant, évidemment.
Et ça fait du bien à entendre. Et justement, ces autres clients, après, ils sont venus comment? Parce qu'on parle souvent de l'entrepreneur qui va un petit peu... faire sa propre prospection. Toi, comment tu t'y es pris notamment?
Alors moi, j'ai LinkedIn est mon canal d'acquisition à 95%, on va dire. Même si je suis aussi dans plein de réseaux professionnels en physique, on va dire. Mais effectivement, la visibilité sur LinkedIn, quand on a 38 000 abonnés, forcément, quand on poste, on a aussi plus de chances d'être vu. Et le fait de poster régulièrement fait aussi qu'il y a cette récurrence qui fait que ça crée une forme d'habitude. Après, j'ai aussi une newsletter. Donc, entre la newsletter, le podcast, les posts LinkedIn, c'est cette création de contenu. Hein. Ma stratégie, elle est vraiment là. C'est je crée du contenu. J'offre du contenu et en fait ça donne envie, donc c'est plutôt du, alors maintenant j'y connaissais rien à l'époque, mais maintenant j'ai compris que c'était le inbound marketing, c'est-à-dire effectivement des clients qui viennent vers moi et qui m'achètent plutôt que moi j'ai à vendre entre guillemets. Donc ça c'est un vrai avantage, Après, évidemment, hein, pendant un an, je me suis formée à la gestion entrepreneuriale, à la question de du marketing, de la communication, du podcasting, etc., etc. Puisque c'est pas mon univers, même si j'ai fait une école de commerce précédemment, c'était il y a 20 ans, ça n'a plus grande valeur, ce que j'ai appris à l'époque. Donc, il a fallu que je me reforme de nouveau. Et je me suis formée beaucoup en suivant aussi des personnes sur LinkedIn, en observant, en regardant, en testant des choses. Des fois ça marche, des fois ça marche pas, et c'est pas grave.
Et pourquoi c'était important pour toi justement de te former avant de te lancer dans le grand bain?
Parce qu'à un moment donné, j'ai envie d'apprendre des meilleurs. Au même titre que moi, j'offre mon contenu pour permettre à certaines personnes d'éviter certains écueils ou de perdre du temps ou de l'énergie. Je me dis que y a des gens qui font ça aussi dans ce domaine-là. Tu en fais partie, et donc c'est aussi comme ça que j'ai écouté ton podcast, j'ai appris aussi des choses, et je me dis il y a des réflexes qu'il a fallu que j'adopte. Tout simplement par exemple, moi j'ai fait 20 ans dans le secteur public. Dans le secteur public, on n'est pas dans une approche commerciale, on est dans une approche de service. Et donc cette approche de vendre, entre guillemets, elle est très loin de ce que j'ai pratiqué pendant 20 ans. Bon, l'avantage, c'est que j'ai grandi sur les marchés. Hein. J'ai une maman qui faisait les marchés, donc je l'ai beaucoup aidée. Et je pense que ça, c'est quand même une belle école aussi. Forcément, on apprend plein de choses à travers la vente sur les marchés. Mais aujourd'hui, on sait qu'il y a aussi beaucoup de choses qui se passent par les réseaux sociaux, par le digital, et donc il a fallu que je me forme pour comprendre les nouveaux mécanismes, pour apprendre aussi ce que veulent mes potentiels clients, ça m'a permis aussi de me dire ça, j'ai une expertise, forcément en 20 ans hein, j'ai un certain nombre d'expertises, et en même temps il faut bien que je choisisse ce que je vais proposer comme offre de service. Et pour ça, j'ai fait le choix d'écouter ce que les uns et les autres veulent pour me dire, je me concentre sur, moi par exemple, les managers, les DRH et les dirigeants. Alors qu'en réalité, je peux accompagner n'importe quel salarié à une recherche d'emploi. Mais j'ai entendu aussi dans les conseils des spécialistes de dire, il faut se nicher. Et se nicher, ça veut dire faire des choix, ça veut dire renoncer, ce qui est très difficile pour moi, parce que quand on est DRH ou DG, on a une vision très globale, avec une diversité de missions, d'enjeux, une complexité de sujets. Et je me disais, oh là là, si je me niche, je vais faire tout le temps la même chose, je vais être en monotâche et je vais très vite m'ennuyer. J'ai un peu lutté contre cette idée. Et aujourd'hui, ça m'a permis de proposer une offre qui correspond vraiment aux attentes des personnes, même si je suis capable de faire plein d'autres trucs. Et finalement, d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai des personnes qui m'appellent pour d'autres commande, on va dire, même si je le mets pas en avant sur LinkedIn. Par exemple, tu vois, la semaine dernière, j'avais quelqu'un qui me demande de venir faire de l'animation en comité de direction. Évidemment que je sais faire, j'en ai fait plein dans ma carrière, mais c'est pas forcément l'offre première que je mets en avant sur mon profil LinkedIn, mais les gens qui me suivent, et notamment par exemple des DRH, là en l'occurrence c'était une DRH qui me dit c'est exactement les messages que vous passez, c'est exactement ce qui nous intéresse dans le comité de direction pour avoir un comité de direction soudé. Bon, tu vois, donc finalement on peut se nicher sans forcément s'ennuyer.
Complètement, et si tu t'ennuyais, je pense que tu ne pourrais pas continuer, et j'aime beaucoup ta vision par rapport au fait que avant de te lancer, tu avais besoin notamment d'acquérir de l'expérience, tu l'as dit, aller chercher des infos, que ce soit sur les réseaux, même te former avec des professionnels. Je trouve ça bien parce qu'il y a des gens qui se lancent dans le grand bain. Bon, moi je suis un petit peu de l'école où il faut y aller, on passe à l'action et puis on peaufinera au fur et à mesure, mais je trouve ça bien aujourd'hui, avec du temps, avec le recul, de se rendre compte que se former, si on a envie de manager notamment des collaborateurs, si on a envie de manager même des prestataires, c'est pas forcément évident en fonction des secteurs d'activité, c'est super important. C'est vraiment important de le faire, et tu as eu cette vision-là, et tu l'as très bien fait. Pendant des années, du coup, tu as délégué beaucoup parce que tu étais une directrice générale. Donc, une directrice générale prend des positions, prend des décisions et délègue beaucoup de choses. Et là, du coup, on va parler de la première fois où tu as délégué, mais pas en tant que directrice générale, en tant que entrepreneur.
Oui, complètement. Alors, pour rebondir sur ce que tu disais, pourquoi aussi j'ai pris le temps de me former, c'est parce que j'étais DG d'une chambre de métier. Donc, j'avais aussi une place privilégiée pour observer les évolutions des entreprises. Et je savais très bien que le taux d'échec d'une entreprise au bout de 3 ans est absolument catastrophique. Et donc, je voulais aussi apprendre pour éviter ça. Et puis pour rebondir sur ta question, sur la question de la délégation, ça a été un gros sujet pour moi de me dire, je vais me mettre en tant qu'entrepreneur, je vais travailler seul, solopreneur, j'ai appris l'expression à l'époque, alors que moi, je suis pas quelqu'un de nature solitaire. Je n'ai pas de difficulté avec le monde du travail en tant que salarié. Donc, je suis pas partie dans l'entrepreneuriat pour éviter de prendre un poste de salarié. Je me suis dit, mais moi, j'aime le travail d'équipe. Comment je peux l'envisager demain en tant que solopreneur? Et en fait, je me suis dit, mais rien ne m'empêche de continuer à déléguer et donc effectivement de m'entourer d'une équipe. Et c'est ce que je suis en train de faire dans l'organisation de mon business. Non seulement je me forme, par exemple, à l'outil Notion, mais je fais aussi appel à un certain nombre de prestataires pour m'aider. Donc, par exemple, j'ai l'appui d'une personne qui est OBM, donc c'est pareil, je connaissais pas, Office Business Manager, quelqu'un qui est un peu un bras droit et qui aide à organiser, à structurer. Ça m'est vraiment utile. J'ai aussi une assistante de direction avec laquelle j'ai travaillé il y a 20 ans qui, en rééchangeant avec elle, me dit « mais moi, je pourrais très bien te faire un peu de secrétariat, un peu d'assistanat, pourquoi pas ?» Et je me dis « mais oui, effectivement ». Et puis, sur le montage aussi du podcast, j'ai fait le montage moi-même et je me suis formée pendant toute l'année 2023 et maintenant je délègue, alors pas la totalité du montage mais au moins le dérushage pour que au moins le son soit déjà correct avant que moi-même je puisse ensuite faire le montage qui me convient. En fait, j'ai reconstitué une équipe parce que d'abord je pense que j'aime bien manager, j'aime bien l'idée, ça fait partie un peu de mon ADN. Parce que j'ai autant d'idées qu'avant, c'est-à-dire qu'avant j'avais 50 idées à la journée. J'avais une équipe de 220 collaborateurs, donc avec mes équipes on pouvait faire une sélection par exemple de 10 projets sur les 50 et les 10, j'étais sûre qu'ils iraient jusqu'au bout. J'ai toujours autant d'idées, sauf que j'ai plus de 220 collaborateurs pour m'aider à les mettre en œuvre. Donc déjà sur les 50, si j'en retiens une par semaine, c'est déjà bien. Et effectivement, l'appui des personnes qui peuvent agir en tant que prestataire, ça me permet de concrétiser véritablement les idées que j'ai. Et puis après, je pense que c'est aussi parce que plus tu montes et plus tu es dans une vision, dans des projets, dans des concepts, et tu es moins les mains dedans aussi. Donc, je suis repassée en 2023 par la case « je mets les mains dedans, j'apprends de moi-même précisément ce que je veux ». Et c'est maintenant que sur 2024, je suis en train de déléguer. Parce que maintenant que je l'ai fait une première fois, je sais exactement ce que je peux demander aux personnes qui maintenant me soutiennent dans l'aventure.
Et qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui nous écoute, qui ne sait pas encore comment déléguer ou qui n'a pas forcément envie, parce que déléguer un peu une partie de son activité, bon, quand on est entrepreneur, solopreneur, peu importe la terminologie, c'est une partie de soi, c'est notre bébé quelque part. Qu'est-ce que tu lui conseillerais justement à cette personne qui a des doutes aujourd'hui sur le fait de déléguer ?
Alors, oui, effectivement, parfois, il y a des personnes qui ont du mal à déléguer parce que ce que les autres vont faire ne sera pas aussi bien fait que la manière dont ils l'auraient fait eux-mêmes. Certes, mais est-ce qu'il vaut mieux pas faire plus de choses, peut-être moins parfaites, mais au moins avancer dans toutes les directions, parce que l'entrepreneuriat, c'est aussi ça. C'est qu'on ne peut pas se dire je ne fais que, par exemple, de la prospection sans faire la production, ou je ne fais que la production sans faire la prospection. À un moment donné, il faut être quand même partout. Quand on est entrepreneur seul, ou même avec une petite équipe. Et donc, déjà, c'est aussi prendre conscience du besoin. Il y a nécessité de déléguer parce qu'à un moment donné, on peut pas être partout, on peut pas tout faire parfaitement et le parfait n'est pas absolument nécessaire. On le sait, hein, c'est la règle des 80-20, hein, il y a 20% de l'activité qui peut rapporter 80%, par exemple, et ben c'est un peu le même principe. Il y a vraiment des activités qu'on ne peut pas déléguer parce que personne ne peut avoir ne peut travailler, par exemple, la stratégie à notre place. Par contre, il y a tout un tas de réalisations qui sont possibles. Donc, il y a évidemment la matrice d'Eisenhower qui peut être intéressante pour faire la distinction entre l'urgent et l'important et se dire que si finalement, c'est pas si important que ça, eh ben, autant le déléguer. Et si c'est pas si urgent que ça, là aussi, on peut le déléguer. Donc, ça, c'est déjà un premier... une deuxième approche, donc c'est prendre conscience du besoin de déléguer et ensuite en termes d'organisation utiliser la matrice Eisenhower. Mais il y a aussi, franchement, qu'est-ce qui nous fait le plus kiffer? Franchement, je me permets le langage un peu naturel, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire que on part pas sur un sprint, on part sur un marathon. Donc si on a une vue court-termiste, on n'y arrivera pas. Et si on est dans la contrainte, je pense qu'on n'y arrivera pas non plus. Enfin, en tout cas, personnellement, moi, ce qui m'anime, c'est plus le plaisir que la logique du devoir. Voilà, ça fait partie peut-être de ma personnalité, mais en tout cas, je me connais. Si ça me contraint, je vais procrastiner. Si je procrastine, à un moment donné, ça va pas marcher. Donc c'est là où je délègue. Et par contre, tout ce qui me donne de l'énergie, qui me fait vibrer, qui a du sens pour moi, qui est ou parfois qui est facile, parce que ça me nourrit intellectuellement, par exemple. Ça, je le garde.
C'est important de déléguer et de garder les choses qui nous animent, qui nous excitent. Merci à toi, Magali, en tout cas, pour ce parcours, pour notamment aussi ton partage d'expérience, parce qu'il y a eu des choses qui n'ont pas forcément été faciles dans ton vécu professionnel. Donc, merci à toi de t'être livré, d'aider les gens aussi, parce que c'est une belle mission, encore une fois, pour vraiment les accompagner dans cette transition. Donc, c'était un vrai plaisir de t'accueillir ici. Et puis, tu reviens quand tu veux.
Plaisir partagé, Alexandre. Et puis, à bientôt au micro de mon podcast.
Et oui, ce sera la prochaine étape, on va dire. Merci à toutes, merci à tous. Encore merci à toi, Magali. Et je vous dis à très vite. Salut.
Si vous aimez ce podcast, je vous invite à mettre un petit 5 étoiles avec un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast pour donner de la force à ce projet qui me tient vraiment à cœur.